êtes bel et bien à Aime la vie avec Robert Blondin ici et Emmanuel. Emmanuel est là. Mais c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'une émission de radio sera animée par une animatrice muette aujourd'hui. C'est comme ça.
Yes, I do. This 1969 Otelli Deluxe, out of blue. With a chip in the paint, I wouldn't trade for $1 million, not even two. But I hang it up for good, girl, if you wanted me to. Good thing you don't want me to, nah. Cause I don't love nothing like I love me some you. I love you right. Your dress, that slipping up your shoulders and your smile. God bless. I'm like a roller coaster going high, high, high till I fall, 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 just like a fool. Ooh, you know it's true. Ooh, girl, I don't love nothing like I love me some you. My leather jacket. Got in Joshua Tree, no legend has it. It was Keith Richards, oh, back in 73. It's got the classic, kind of cool. But nothing fits these arms like it do. You know you do. And I don't love nothing like I love your eyes, your dress, that slipping off your shoulders and your smile. God bless, I'm like a coaster going high, high, high till I fall, fall, fall just like a fool. Ooh, you know it's true. Ooh, girl, I don't love nothing like I love me some you. And all my prized possessions, my slight obsessions, you know. That slipping off your shoulders and your smile. God bless. I'm like a roller coaster going high, high, high till I fall, fall, fall just like a fool. You know it's true. Girl, I don't love nothing. Girl, I don't love nothing. Like I love me some you. Like I love.
Un nom du country qui fonctionne bien ici au Québec, Matt Lang, ou alias Mathieu Langevin, qu'on vient d'entendre avec cet album.
Ah, il s'appelle Mathieu Langevin?
Oui, oui, mais il a eu une autre carrière, et pour sa carrière country, il a décidé de s'appeler Matt Lang.
Bon, ben, je vais t'accoter plus tard dans l'émission, je vais t'en sortir un country de mon âge, moi.
C'était la pièce « Love Me Some You ».
Bon, ben, merci beaucoup. Je veux confirmer, Emmanuel Robitaille est bel et bien à la barre de cette émission aujourd'hui. À top de main, elle devrait même pas faire ça. Elle est malade. Elle est poignée des cordes. Elle est malade des cordes vocales. Et son autorino lui a dit pas un son. Alors, comme c'est une chanteuse en plus, une grande chanteuse, il faut qu'elle ménage ses cordes. Comme une violoniste ou une violoncelliste, hein, c'est la même chose. Alors, elle ménage ses cordes, elle ne parle pas, mais elle va faire ses gestes. Elle est là, je vous la confirme. Elle est des jeans bleu pâle, aussi déchirés que d'habitude, avec son gabinet, puis un chemisier blanc avec des grosses fleurs rouges dessus, de la même couleur que son rouge à lèvres, ça lui fait une fleur de plus. Plus, ben oui, plus de vernis à ongles, du même rouge. Donc, elle fait très concept, elle doit être de Québec. Alors, je vais vous décrire ses réactions, elle ne peut pas les dire. Là, elle me fait des gestes obscènes, finalement, pour me dire que j'ai tort de dire qu'elle est de Québec. Mais c'est pas grave, on va prendre... Comme je prends sa parole, elle vous parlerait des choses qui l'intéressent pour elle. Moi, à l'âge que j'ai trouvé des bonnes nouvelles qui m'intéressent, moi. Fait que là, elle va rester tranquille. C'est que selon une étude britannique, la radiothérapie fonctionnerait contre le cancer de la prostate en stade avancé. Moi, j'ai ça, le cancer de la prostate. Mais je vis très bien avec, il n'y a pas de problème majeur. Tout va très bien, Madame la Marquise. Mais de nombreux hommes atteints de cette maladie verront leur chance de survie augmenter. Ben oui. C'est bon, ça se soigne bien et on ne vient pas fou avec ça. Quand c'est pris à temps, ça se passe très, très bien. Alors, voici ce qui se passe. Ce médecin qui a fait les études, affirme que la radiothérapie couplée au traitement hormonal habituel serait efficace contre le cancer de la prostate. Bon, des gros cancers avec des métastases et tout, soit un faible stade de propagation. Cette méthode pourrait augmenter de 11% le taux de survie des personnes atteintes. Ça, c'est 11% de plus de vieux comme moi sur la rue. C'est fou. Ben, ça compte, t'sais? Pour le peu que ça nous intéresse. Alors, je vous décris les réactions de l'animatrice qui a beaucoup d'empathie pour les cancéreux et elle était morte de rire. C'est difficile à expliquer pourquoi, mais elle ne peut pas me contredire. C'est ça qui est bien. Alors, rien qu'en Angleterre, où l'étude a été menée, près de 3000 personnes pourraient bénéficier de l'association des deux traitements. Il faut joindre les deux traitements. Saviez-vous que le cancer de la prostate, c'est la troisième cause de décès des hommes? Au Canada, il touche près d'un homme sur sept. Le plus souvent, il est diagnostiqué, heureusement. Quand c'est fait assez tôt, ça se passe bien. Et pour les gens qui ont suivi cette nouvelle façon de combiner les deux traitements, on arrive à des résultats de 81% d'étirement de vie longuement jusqu'à 7, 8, 10 ans. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, ça me fait du bien ce matin de vous parler à vous de bonnes nouvelles pour les gens de mon âge qui écoutent. Il doit en avoir quelques-uns encore, pas juste des jeunes comme elle devant moi avec sa chemise blanche, ses fleurs rouges. Et pour elle, ça ne l'intéresse pas du tout. D'une part, parce que c'est une femme, le cancer de prostate, ça ne l'intéresse pas. Puis à l'âge qu'elle a, non. Alors, elle est préoccupée par ses cordes vocales. Il ne marche pas, ses cordes vocales. Là, elle fait toutes sortes de gestes, elle voudrait parler, mais elle ne peut pas parler.
Dans la glace, le silence comme
On reste avec les gens de Québec avec le trio DeLorean et un album qui est paru au mois de mars cette année avec la pièce Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout? On va y aller. Je vais encore en profiter pendant cette émission puisque la jeune animatrice a les cordes vocales en grève. Chaque corde vocale a un petit gilet jaune comme en France. Ils peuvent pas vraiment travailler. Ils protestent. Alors, elle peut pas dire un mot. Elle est là. Elle réagit. Parfois en souriant, parfois avec des yeux qui ont des éclairs pour tuer le monde auto, selon ce qu'on dit. Alors, je vais en profiter du fait qu'elle peut pas parler pour parler encore une fois, comme c'est le cas dans l'émission, de bonnes nouvelles. Mais alors pour les vieux, j'en profite, la jeune est malade, alors c'est pour les vieux. Alors, l'art et la musique amélioreraient la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. On reste dans les vieux comme moi. Ça, c'est parfait. Selon un nouveau médecin, je vous passe des détails, les signaux sonores sont de plus en plus utilisés dans la prise en charge des troubles moteurs des patients parkinsoniens, notamment pour les aider à se synchroniser sur des instruments de musique comme le métronome ou sur une musique rythmée. Donc, faire de la musique, c'est vraiment utile. De nombreuses expériences ont montré que l'induction musicale permet une fluidité des mouvements de la part des patients qui fait qu'ils arrivent à se caler sur la musique et à reprendre une motricité beaucoup plus fluide. L'art est une forme de thérapie pour les patients. Il aide, entre autres, à exprimer, extérioriser les émotions en dansant, en écoutant de la musique, en dessinant, en peignant, en chantant, mais pas aussi fort qu'elle, par exemple, parce que là, le plus, c'est corde vocale. Alors, c'est un bon calmant, c'est un nouveau remède, mais c'est un remède que moi, j'aime bien. On s'en va au téléphone, hein? Toi, si t'étais là, regarde, tu irais au téléphone pour parler probablement à David Trudeau-Fournier, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes là, M. Fournier?
Oui, bonjour.
Bon, elle aussi, elle est là, mais elle ne peut pas vous parler. Les codes vocales particulièrement maganées. Je lisais tout ce que vous faites. C'est assez extraordinaire, cette nouvelle façon de gérer le personnel.
Nouvelle, c'est plus optimal, on pourrait dire.
Oui. Mais pourquoi vous avez commencé ça pour régler le problème de recrutement du personnel?
Je crois que c'est simplement naturel à ma génération. Tu sais, je travaillais avec du monde qui était mon âge à la base, etc. Quand on travaille avec quelqu'un qui a 20, 30 ans plus vieux que soi, c'est normal qu'on le regarde comme le grand patron, puis OK, il faut que j'y obéisse, puis j'ai rien à dire. Alors que des fois, j'ai eu des employés qui étaient plus vieux que moi. Donc, c'est normal de OK, on va baser la relation sur le respect, puis que chacun est gagnant-gagnant à travailler ensemble, pas sur « tu travailles pour moi, puis t'as rien à dire ».
Et ça a été difficile à faire ça? Est-ce que les gens ont accepté facilement que vous les traitiez sur un pied d'égalité? Ils sont pas habitués à ça?
En général, il n'y a pas trop de problèmes, je dirais. Surtout, c'est pas particulièrement difficile, je dirais.
Vous êtes dans le domaine de la restauration. De quel restaurant, de type de restaurant on parle?
Les pokés. On a deux restaurants de poké, puis on a un restaurant de ramen.
Et c'est une clientèle qui est aussi jeune, comme les employés, comme vous l'êtes? Vous n'avez pas 30 ans, vous?
Non, j'ai 26.
Non, mais vous avez le temps d'en avoir, 30 ans, ça ne sera pas long. Donnez-moi des exemples de pratiques avec vos employés, des pratiques qui sont moins familières aux gens qui sont sûrement plus vieux dans l'industrie, en restauration, mais dans d'autres choses aussi, là.
Je dirais qu'il y a moins de place à une hiérarchie. Donc, il y en a une un peu pour une organisation, mais tu sais, n'importe qui arrive avec des suggestions, n'importe qui a une amélioration à proposer, on va l'écouter, on va travailler avec. Comme je dis, il n'y a rien qu'on fait qui est unique à nous, mais c'est qu'on est allé rassembler plusieurs bonnes idées qu'on voyait ailleurs. On essaye de comprendre les besoins de l'employé aussi, la souplesse d'horaire pour certains et d'autres. OK, là, il est vraiment rendu pour un congé, donc comme on avait un gérant qu'on lui a donné une semaine de vacances parce qu'il avait beaucoup travaillé pour nous. OK, prends le temps de te reposer, puis etc. Ce qui n'est pas une... Tu sais, c'est une semaine de vacances payée qu'on lui a rajoutée, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on verrait beaucoup dans la pratique.
L'animatrice qui vous écoute, mais qui a plus d'écoute vocale, applaudit à tour de main. Donc, elle est tout à fait d'accord avec vous. Parlez-moi un peu de votre politique salariale. C'est particulier la façon de traiter, de payer les gens.
C'est pas si particulier que ça. Puis aussi, tu sais, j'ai été surpris à quel point il y a une réaction pour ça. Je vous dirais, le monde de la restauration, déjà à base, faut pas le confondre avec le reste du monde du travail. T'sais, c'est pas la même chose de moi dire OK, on y va plus pour le mérite qu'à l'expérience, que le gouvernement, parce que le monde reste en général pas plus gros max que 2-3 ans. C'est un monde qui a énormément de rotation, puis c'est tout simplement ce que le monde recherche aussi. Souvent, ils veulent avoir le plus d'expérience possible. Mais l'idée, c'était vraiment, OK, tu rentres chez moi, tu travailles bien, tu me donnes ton 100%, puis ça paraît, ben je vais récompenser ça. C'est pas vrai que je vais dire, ben il faut que tu attendes un an pour être augmenté. Des fois, j'ai travaillé dans des restaurants, c'était juste 50 cents.
Et c'est vous le patron qui prenez l'initiative de l'augmenter? Vous attendez pas qu'il vous le demande?
Oui, aussi. On travaille vraiment... c'est rare que c'est l'employé qui est venu puis qui a comme fait, OK, je m'attends à plus. C'est nous plutôt qui est comme, tu travailles bien puis on aime ce que tu fais, tu mérites plus en ce moment.
Je voyais parmi les avantages de travailler dans vos établissements des séances de massothérapie, on se penserait dans la Silicon Valley, là.
Ouais, ben pas tant que ça. Tu sais, ça n'a pas lieu pendant le travail, là. Ça serait d'ailleurs un peu bizarre. Mais là encore, tu sais, on est dans la restauration, c'est pas le domaine où il y a le plus d'argent, mais c'était s'adapter aux besoins des employés. Puis il y a un gros problème qu'il y a pour n'importe qui fait un travail manuel répétitif, ben c'est les douleurs physiques qui finissent par apparaître à un endroit ou à un autre. Alors, tu sais, pour nous, c'est même pas comme gâter les employés, c'est juste un investissement. C'est... Regarde, on va te donner l'opportunité que tu puisses te soigner, puis tu vas sans doute mieux travailler si t'es pas à te plaindre à toutes les 2 minutes ensuite que ton épaule te fait mal. Donc, c'est encore une fois, pour nous, ça apparaissait purement logique.
Des cours de français pour un employé, je voyais ça dans les avantages que vous donnez, c'est extraordinaire pour vraiment incorporer dans notre système les migrants, les immigrés qui arrivent, non?
Oui. Ça, ben, on a 3 personnes qui sont pas originaires du Québec, tous des Asiatiques. Il y en a une au fond, c'est une employée avec qui on travaille depuis très longtemps, mais c'est une amie de la famille qu'on a réussi à trouver pour l'aider pour qu'elle sa francisation. Donc, mais je crois qu'on essaye d'encore améliorer parce qu'il y a peut-être une autre personne pour qui ce serait pertinent. Puis je crois que c'est vraiment une mesure qui est pertinente à mettre dans le milieu de travail. Parce que c'est l'environnement, souvent, où ce monde-là vont le plus être en contact avec des francophones. Tu sais, si tu mets ça dans la famille ou juste une classe par semaine, en plus, ils se retrouvent tous entre allophones, alors qu'au travail, de base, elle n'avait pas le choix de parler français, puis en plus, qu'on lui donne des cours à améliorer son vocabulaire, ça a vraiment donné qu'elle s'est améliorée, puis qu'elle peut plus interagir avec le reste de la société maintenant, on pourrait dire, plutôt que d'être contraint à son milieu familial.
Formidable. Est-ce que dans votre ta connaissance à vous, il y a des chefs d'entreprise, de petites entreprises même, qui suivent votre façon de faire?
Je suis pas très branché sur le milieu des affaires de Québec, je vais être honnête par rapport à ça. Alors, je sais pas, mais je connais un peu la restauration par-ci par-là. En général, le monde tranquillement commence à s'améliorer de part en part, il y a des mesures. La différence pour nous, je crois que c'est vraiment qu'on a été plus...
En fait, votre méthode, elle se résume, c'est une vieille vérité humaine qui date de très longtemps. Si t'es fin avec quelqu'un, il va être fin avec toi, hein?
Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça. Puis ça va avec toute la notion. C'est aussi, nous, on essaye de travailler au niveau du produit, c'est la même chose. C'est le respect du produit, c'est le respect de l'employé. C'est comme quelque chose que là encore, venait logiquement, on essaye de respecter, de tout faire nous-mêmes, etc., ben ça n'aurait pas de sens que, OK, on considère mieux la nourriture que nos employés. Ce qui, des fois, dans des cuisines, étrangement, ça a l'air de ça.
Ben David Trudeau-Fournier, merci beaucoup. J'espère que vous ferez tâche d'huile, non seulement à Québec, mais partout au Québec.
Ben merci beaucoup.
Au revoir.
Pas échapper à cette époque-là.
On va entendre la formation Paupières avec la pièce Brûler bruyamment, avec une, qui est tirée d'un album qui est paru il y a un peu plus d'un an, en septembre 2017. L'album s'intitule À jamais privé de réponse.
Jean-Sébastien, au début de l'émission, on a fait jouer une musique country, etc., qui est moins de mon temps à moi, mais dans mon temps aussi, il y avait de la musique country, puis on aimait ça. Mais je vous rappelle à tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, que vous écoutez actuellement Aime la vie, qui est animée par la seule animatrice muette de l'histoire de la radio, parce que là, ses cordes vocales sont en grève. C'est un mouvement syndical qu'elle a à l'intérieur de son corps. On remplace pour elle. Je vais vous poser quelques questions, je vais vous décrire sa réponse. Comment tu te sens bien, ça va? Moi, je vois un zéro, donc ça ne doit pas aller du tout. Est-ce que tu as d'autres choses à déclarer? Est-ce que tu es bien à ne pas parler? Est-ce que tu aimes ça pour ne pas parler? Elle aime ça. Ah, pas tellement. Ah oui, je vois avec ses points qu'elle ferme les points. La boxe, ça t'intéresse, non? Pas vraiment. OK, alors je parlais de musique country, Jean-Sébastien. J'en ai apporté une qui est de mon âge. Là. Fais jouer ça. Les vieux vont aimer ça comme moi.
All right.
Quand je te chante mes poèmes et que je pense à toi toujours, chérie, lorsque nos deux corps se confondent, je me demande à la ronde si tous les gens sont comme nous. Souvent pleurer, souvent rêver, tu es la seule que je consolerai. Chérie, ne me demande pas si je t'aime et si parfois j'ai de la peine, tu resteras mon seul amour.
Bon, merci Willy.
C'est un contresens énorme, mais très répandu, que de considérer l'amour comme un sentiment universel, éternel, inscrit dans la nature même de l'homme, une énigme à laquelle nous devons soit nous adapter, soit renoncer, selon que nous ayons ou non les talents requis. Mais la signification qu'on accorde à ces sentiments varie considérablement d'une culture à l'autre. Peu de gens seraient amoureux s'il n'avait jamais entendu parler de l'amour, écrit La Rochefoucauld.
Marcel Sabourin, oui, La Rochefoucauld qui rit ça. Est-ce que vraiment on parlerait d'amour si on n'avait jamais entendu parler? Marguerite Yourcenar disait ça aussi. On n'est pas si certain que ça. Hein? Ça correspond à des choses. Alors, je vous rappelle qu'Emmanuel Robitaille est aphone. Elle n'a pas de fun, mais elle est aphone parce qu'elle ne peut pas parler. Elle aime ça. Alors, elle avait préparé des choses à vous dire. Je vais fouiller dans ses feuilles. Elle voulait vous parler de l'Éthiopie, qui a nommé une femme comme première ministre pour la première fois le 25 octobre. Ça l'intéresse. Pourquoi? Dis-moi là, je vais traduire tes gestes. Parce qu'il était temps, il était plus que temps, d'après ce que je vois, le geste, surtout de la main gauche, c'est ce qu'il explique. Le Parlement européen vient de bannir le plastique à usage unique. Ça t'intéressait beaucoup, ça? Ben, cette histoire... J'espère qu'il n'y a pas de plastique dans ton rouge à lèvres, parce qu'il est très rouge. Hein? Fais attention. OK. L'autre affaire dont tu voulais parler, c'est que la marque Patagonia a changé le monde littéralement en utilisant des matériaux qui étaient corrects. Hein? Non, tu veux que je dise ça, mais OK. Elle s'est vue récipiendaire d'un cadeau fiscal du gouvernement Trump d'un montant de 10 millions de dollars. Et tabarnouche, plutôt que de réinvestir l'argent pour elle-même, elle a plutôt choisi d'investir dans la planète, redistribuer l'argent des organismes qui œuvrent pour les changements climatiques. C'est pas beau, ça? Elle applaudit. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un applaudir comme ça, c'était au Six. C'était deux phoques. Eh bien, vous écoutez Aime la vie avec Emmanuel Robitaille, tout à fait présente dans toute sa splendeur, mais pas de voix. Aphone, elle est malade, la petite. Elle est malade. Alors, on le fait pour elle, on parle pour elle. Est-ce que tout va bien là, à ce jour, à cette heure-ci, Emmanuel, hein, ce midi? D'après la moue qu'elle fait, c'est moyen. Je pense que ça pourrait aller mieux si elle pouvait vraiment nous crier par la tête quelque chose qu'elle ressent profondément. Ça, c'est certain. Un petit peu de musique, mais on va revenir avec le médecin. Il va nous expliquer ce que t'as, lui.
On vient d'entendre la pièce Jamais eu tort. C'était le Barbara Darry Orchestra. Le Orchestra, oui, Orchestra, le Barbara Darry Orchestra. Non, c'est une formation de Québec et c'est un album qui va paraître à la fin janvier 2019. Donc, petite primeur, premier extrait de cet album à paraître, dans lequel on a pu entendre mon nom tel que hurlé par notre prochain invité. Monsieur François Daruel.
C'est ça, je voyais une larme à ton œil, c'est ça?
C'est ça, c'est ça en fait.
Écoute, ça m'étonne, mais ça fait la troisième pièce musicale de cette émission où ça sent un peu le crottin de cheval quand même. Ben, c'est plutôt rare, mais je parle pas de toi, François. François Baruel, qui connaît tout de l'être humain et comment nos corps sont faits, sûrement familier avec celui d'animatrice muette. Je parle de sa gorge seulement. De sa gorge. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans sa gorge qui fait qu'elle peut pas nous parler?
Mais oui, bien sûr. En fait, ses cordes vocales sont actuellement un peu inflammatoires. Les cordes vocales, c'est comme deux cordes de guitare et qu'on fait vibrer plus ou moins en tendant la corde avec les petits muscles. Qui permettent de les tirer.
De chanter plus
ou moins haut. Plus ou moins haut, exactement. Et en fait, quand on tire un petit peu et qu'on force sur la voix, c'est-à-dire qu'on lui demande trop de travail, ça finit par entraîner une inflammation, non seulement de la muqueuse, mais aussi, ça peut être aussi des insertions musculaires. Et ça peut donner des nodules. À long terme, ça peut donner des nodules sur les cordes vocales. Ce sont des gens qui ont une voix cassée, qui peuvent parfois avoir une voix un peu voilée. C'est une voix qu'on peut entendre chez les fumeurs, notamment. C'est un petit peu, ça donne un peu ça. Mais en fait, Emmanuel, elle ne fume pas, on le sait bien.
Mais elle chante beaucoup. Elle travaille beaucoup. En studio de ce temps-là. Elle prépare son disque, là, qui va être un disque platine, probablement dans 4 ou 5 mois.
Et en plus, elle parle énormément. Donc, elle m'a dit elle-même qu'elle parlait
vrai.
À ses chats.
Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut s'en reposer. Oui,
oui,
c'est ça.
C'est vrai que là, c'est très étonnant. Il est calme, le studio. C'est incroyable.
Ça fait du bien. Hein?
Oui, ça fait, pas,
c'est
ça fait
vraiment
du bien.
Bien.
Oui, c'est ça. Ben oui.
Et toi? Alors oui, c'est l'animatrice muette aujourd'hui.
C'est l'animatrice muette. Pour la soigner, c'est vrai qu'il faut qu'elle ne dise absolument rien.
Mais je trouve le concept intéressant d'une animatrice muette. Oui, ça ferait du bien à tellement d'invités dans tellement de postes de radio parfois.
Même à la télévision, ça serait amusant d'avoir un animateur invisible.
J'en rêve. Hey, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors,
François?
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une bonne nouvelle, une nouvelle intéressante. C'est qu'en fait, on a besoin de cœurs. Vous savez qu'on a besoin de transplanter des cœurs. Voilà. Et le cœur humain a parfois des faiblesses et il faut le remplacer par un autre cœur, parfois un cœur mécanique, pour le moment c'est pas encore très au point, ou un cœur biologique, c'est-à-dire un cœur humain, mais on en manque énormément, ou alors un cœur qu'on peut trouver chez un autre animal, si on appelle une xénogreffe. Actuellement on se tourne vers les porcs. Les cochons ont un cœur qui ressemble énormément à celui de l'humain. Et on a réussi à fabriquer, vraiment fabriquer, des cochonnets qui sont modifiés génétiquement, et qui leur permettra d'avoir un cœur compatible en grande partie avec celui des humains.
Si on transplante un cœur comme ça, est-ce qu'il va grandir avec la personne? Il va continuer à croître?
On attend qu'il soit grand, parce qu'en fait, il faut qu'il soit grandi. Je parle des cochonnets parce qu'en fait, c'est tout nouveau. Hein. L'Université de Munich qui a mis ça au point.
On garde le cœur du cochonnet.
On garde le cœur du cochonnet, on laisse grandir, mais pour le moment...
Mais on fait rôtir le cochonnet une fois qu'il est fini.
On peut manger le reste. Oui, c'est ça.
Je savais qu'on n'aimerait pas ça. Excuse-moi, continue.
Ce qu'on a retiré, c'est un gène qui correspond à des rétrovirus. Parce qu'en fait, on ne sait pas... Le problème, c'est de mettre un cœur de cochon qui contient des rétrovirus dans son ADN. Des rétrovirus, si on met un rétrovirus de cochon dans le corps humain, qu'est-ce que ça va donner? Ça risque d'être dangereux. Voilà. Il y a déjà, de toute façon, elle fait le geste. Là.
Le rejet, c'est extraordinaire. Oui. Elle m'aime très bien, le rejet.
Expulsion et rejet du cœur du cochonnet.
C'est un des beaux microbes que j'ai vu cette semaine.
Voilà. Et en fait, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Donc, on a retiré le rétrovirus. On sait que ça, c'est dangereux. Donc, on a retiré du gène du cochon ce rétrovirus. Et du coup, ils sont compatibles. Alors évidemment, il y a une compatibilité supplémentaire qui nécessite un traitement anti-rejet, enfin un traitement immunodéprimant, un immunosuppresseur, pour pouvoir conserver ça. Mais ça, on a mis un cœur de cochon chez un babouin qui ressemble beaucoup à l'humain, et on a réussi.
Plus que le chimpanzé?
Pour le moment, c'est que le chimpanzé est un petit peu plus petit que le babouin. Et le cœur tient mieux, je crois, dans le babouin que dans le chimpanzé. Okay. Et il a survécu 6 mois. Et c'est une première. Donc ça fait juste quelques années, une dizaine d'années qu'on a commencé à chercher ce genre de choses. Et là, pour le moment, étant donné que le babouin, quand même, on est très très proche hein, du babouin à quelques gènes près. Et donc ça pourrait marcher chez l'humain. On est déjà à 6 mois.
Ben oui. Ouais. Ben oui, ça peut très très bien marcher. Ben oui, il faut tuer le babouin. Il faut bien sacrifier quelque chose.
C'est vraiment épouvantable, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est arrête de faire le chimpanzé.
Non, mais si l'homme que tu aimes a besoin d'un cœur, vas-tu choisir le babouin ou celui l'homme que tu aimes?
Et voilà.
Elle est perdue.
Mais oui.
Elle est perdue. Elle voudrait frapper partout, mais on la sert pour faire. Ça pourrait endommager d'autres cornes. Les ailes, on ne sait pas lesquelles. Non, mais il y a des êtres sensibles comme ça.
Bien sûr.
Je suis certain qu'elle mange quand même du poulet.
Je pense pas.
Elle mange pas de poulet non plus.
Non. Ah, mon Dieu. J'ai pas l'impression, non, je pense pas. Elle parle
assez
cher.
Est-ce que tu manges de la viande parfois? Jamais de viande. Jamais, jamais. De temps en temps, si quelqu'un d'autre t'en donne, etc. Si tu payes pas pour, tu l'acceptes. Oui. C'est pas tout à fait ça. Non, elle voudrait relativiser, avoir à la séance la semaine prochaine pour me répondre à tout ça. Donc, est-ce que c'est un espoir qui est réel, ces transplantations de cœur animaux?
C'est un espoir qui est réel, parce que c'est vrai que ça n'a duré que 6 mois, mais on est en train d'améliorer encore les choses, puisqu'on est en train de nettoyer tous les gènes des cochons de tout ce qui pourrait empêcher provoquer un rejet.
Est-ce qu'éventuellement on pourrait penser à une transplantation, je pense surtout à notre animatrice, de cordes vocales?
Après tout, on utilise bien des valves aortiques de porc pour remplacer celles de l'homme. Et ça a été une très très grande avancée, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on a une insuffisance ou un rétrécissement aortique, il est courant de remplacer cette valve aortique de l'homme par celle d'un cochon.
Tu vois, Emmanuel, il y a de l'espoir pour toi.
Absolument.
Je voulais être un... peu invincible et ne jamais te laisser croire. Et puis comme un ouragan qui se fait désordre et tourment, tu m'habites comme si je t'aime trop. J'aurais voulu être insensible pour que de toi ne reste seulement qu'un parfum de déjà vu.
Et on vient d'entendre Cynthia Harvey, un extrait trouvé sur le palmarès à disque, qui est un extrait qui est paru il y a quelques semaines à peine. C'était Parfum de déjà vu.
Oui, mais c'est une amie de notre animatrice Afon. Mais si Cynthia continue à chanter comme ça, elle pourrait devenir Afon, parce qu'il sort du son de ça par à peu près. Je vois une photo, on me montre une photo de notre animatrice muette avec Cynthia, oui. Ça va vous ressembler un peu, d'après la photo que je vois.
Ben oui, c'est pas juste une amie Facebook. Elles se sont vraiment rencontrées physiquement à un même lieu.
Ben
on a une preuve de ça.
Ah oui?
Oh, ben
oui,
c'est ben sur la photo,
ce oui, excuse-moi.
Ou c'est du très très bon Photoshop.
Effectivement, leurs cordes vocales sont tellement prêtes qu'elles pourraient se nouer.
Je décortique les paroles de notre animatrice qui nous dit que c'était à la voix qu'elles ont été en même temps, donc de la même cohorte.
Oh, ben, c'est des cohortes qu'on appelle ça. Bon. Formidable. Dans mon temps, c'était des chorales, mais ça, c'est autre chose. Des chercheurs scientifiques suisses. Oui, on nous montre d'autres photos. Ils sont bien amusés ensemble, les filles. Mais là, soyons sérieux, on a des bonnes nouvelles de santé à apporter. Chercheurs scientifiques suisses ont pu faire remarcher 3 personnes paraplégiques grâce à un dispositif de stimulation par électrode implanté au niveau de la moelle épinière et synchronisé avec les mouvements de la marche. Ça m'intéresse parce que j'ai un beau-frère qui fait des recherches à partir des cellules de souche pour aider les paraplégiques également. Cette stimulation délivre un courant électrique qui amplifie l'influx nerveux résiduel envoyé par le cerveau. Un pas de géant, toi, ça t'intéresse moins parce que t'es pas paraplégique, toi. T'es plégique, complètement plégique. T'es pas paraplégique. OK, full plégique. Un pas de géant dans la recherche sur les blessés de la moelle épinière, selon Chet Moritz, spécialiste de l'Université de Washington à Seattle. L'expérience comprend 2 phases. C'est important parce que j'en connais de ces gens-là qui cherchent toujours un brin d'espoir dans la recherche. La première phase est la stimulation qui permet une activation des muscles et augmente l'endurance à l'entraînement. Dans une deuxième phase, on commence à voir une récupération neurologique, c'est-à-dire que certains mouvements deviennent possibles sans stimulation. Des électrodes sont reliées par un câble au neurostimulateur logé dans l'abdomen, sous la peau. Une montre à commande vocale permet au patient d'activer son stimulateur et les résultats sont extrêmement prometteurs. Je vous promets qu'en fin d'émission, puisque c'est une émission un peu historique, la seule au monde animée par une animatrice aphone, muette, nous ferons en fin d'émission une entrevue avec notre animatrice vraiment handicapée là, au niveau de la voix. Et elle ne pourra répondre qu'en mimant ses réponses, et je décrirai et interpréterai ses gestes à ce moment-là. On verra comment ça peut s'expliquer. On va s'amuser, je pense.
Bonjour le vertige.
Tu m'as offert un verseur Waverly.
T'as pris des nouvelles de David et Angie, de Berlin et Paris. Et c'est parti en vrille.
On a pris le dernier métro. Emporté dans l'effet domino. Chez toi par le dernier métro. Entraîné par l'effet domino.
Vertigo, le titre de cette pièce de Dumas qu'on vient d'entendre à l'instant.
Pas seule émission au monde animée par une animatrice muette. C'est important parce que c'est une émission historique. Alors, elle est devant moi, cette animatrice. Elle est là, splendide, presque souriante. Et elle fait beaucoup d'entrevues, mais elle n'est jamais interviewée dans ces émissions-là. On va l'interviewer, on va profiter pour avoir ses réponses. Elle ne pourra que les mimer. Je les interpréterai, ses réponses. Je vous dirai exactement ce qu'elle fait. Je voudrais que tu me parles un peu, quand tu étais à l'école primaire, Emmanuel, qu'est-ce qui te plaisait le plus dans une journée à l'école primaire? Non, fais-moi des gestes, mais pas des... Elle veut écrire, absolument. Non, je voudrais que tu me gestes l'action en question, peux-tu me la... OK. Elle joue avec ses mains, elle lève la main, elle voulait répondre à toutes les questions, et ce qui lui pesait le plus, c'était à la récréation, quand ta petite amie partageait son popcorn. Formidable. Alors là, je te connais bien. Plus tard, dans tes études, t'as voulu choisir la psychologie. Bon, je voudrais savoir, t'as choisi la psychologie, j'imagine que ça te plaisait. Ils n'ont pas pu vouloir t'incorporer. Tu voulais faire l'armée au départ, non? Elle rit. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est très important, l'armée, pour défendre la liberté. Et il paraît que la nourriture qui sert dans l'armée, elle la digère difficilement, d'après le geste que je vois. Elle a préféré vraiment la psychologie. Oui. Et dis-moi, toutes les jeunes femmes d'une telle beauté, on leur demande que pensez-vous de l'amour, comment va l'amour chez vous. Et là, tu me réponds ça comment, pas avec ta face, mais avec tes gestes, ça ressemblerait à quoi, là? Elle a vraiment une culture très grande. Elle nous réfère à l'époque romaine où dans le Colisée, on mettait le pouce en haut ou en bas si on voulait tuer ou non le gladiateur. Ça a l'air que le gladiateur, elle n'en veut pas.
Pour baritonner ou sopraniser, faut la travailler, mais il ne faut pas la rayer. La perfectionner, la tonifier, la placer, l'accorder.
Faut la surveiller, la déverrouiller, la carillonner, l'harmoniser, la déclamer. Ne pas la sous-estimer, la déprimer, la malmener.
Surtout ne pas la turlupiner, encore moins la démantibuler. Surtout ne pas la raffariner, encore moins la sarcositionner.
Faut la gazouiller, la chocolater, la désenrhumer, la coquiner, l'ensoleiller. La porter sans l'épuiser, la laisser nous chanter. La voilà, la voilà, la voilà, 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 la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, 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 la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, 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 la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, voilà, la voilà.
On on peut la blesser, la voir s'enrouer le jour du concert. Elle peut tout à coup nous lâcher, il faut alors opérer, car on peut la perdre à jamais. La rééduquer prendra des journées, des mois, des années, mais il faudra bien patienter.
Comme elle est fragilisée, elle a besoin d'être assurée. Surtout ne pas la cortisonner, encore moins la cryogéniser. Surtout ne pas la fioniser, ni non plus la copéiser. Il est dangereux de la politiser.
Faut la préserver, la réconforter, faut l'énergiser, la déstresser, la yogiser, elle aime être câline. Faut la mieliser, la propolisser, la dorloter, ne jamais la forcer, faut tout simplement la libérer.
Surtout ne pas la désaccorder, encore moins la monopoliser. Surtout ne pas l'obispoiser, ni même la star académiser. Faut la pimenter, la libertiner, l'improviser, mais par-dessus tout la musicaliser.
La voilà, 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 la voilà.
Pour baritonner ou sopraniser, faut la travailler, mais il ne faut pas la rayer. La perfectionner, la tonifier, la placer, l'accorder.
Faut la surveiller, la déverrouiller, la carillonner, l'harmoniser, la déclamer. Et ne pas la sous-estimer, la déprimer, la malmener.
Surtout ne pas la turlupiner, encore moins la démantibuler. Surtout ne pas la raffariner, encore moins la sarcositionner.
Faut la gazouiller, la chocolater, la désenrhumer, la coquiner, l'ensoleiller, la porter sans l'épuiser, la laisser nous chanter.
La voilà, 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 la
voilà, la voix que voilà, voilà la voix, voilà la voix, voilà la voix, voilà la voix, 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 la voix.
Musique ingracieuseté de Wolfgang Amadeus Mozart, rondo à la turque, mais les paroles étaient ingracieuseté de chansons plus bifluorées. Avec la pièce Voilà la voix, comme on a pu deviner, quelques conseils judicieux pour notre animatrice.
Chanson qu'on lui dédie, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr, ce n'était pas anodin comme choix.
Ainsi s'achève cette émission animée par la seule animatrice muette de nos ondes et Blondin, Robert, ici de mon prénom, pour aider à expliquer ce qu'elle mime, en fait. À la recherche, Catherine Borderon, François Baruel était avec nous. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère qu'Emmanuel va retrouver la voix pour la semaine prochaine.